Il semble qu'un virus mystico-ésotérique nous ait piqué en Occident dans cette fin de siècle. Cette conférence veut affirmer qu'il n'est point besoin de l'Orient pour vivre épanoui sur cette terre et pour être pleinement assuré aujourd'hui même de notre salut éternel. Le Christ étant parfaitement suffisant pour ces choses, autant dans son admirable personne que dans son œuvre de rédemption parfaite. J'ai acquis l'intime conviction qu'il s'agit de la séduction la plus importante qui se soit présentée à nous chrétiens dans ces dernières années. Prônant l'unification de toutes les croyances en une religion unique et mondiale, il met en avant un certain Maitreya, dit le Christ, prétendument le Christ dont la réapparition serait imminente. Et comme vous le savez, ce Maitreya s'est révélé ces dernières semaines à Londres. Vous en avez su quelque chose ici? Non, vous n'êtes pas en Europe, hein. Nous sommes en Europe. Il s'est fait connaître devant certains membres de la famille royale à Londres, en même temps que devant la presse internationale. J'ai pas mal de documents ici rapportés par la presse à cet égard. En vérité, c'est à l'esprit de l'Antichrist que ce mouvement ouvre grandement la porte, car ce Maitreya en question n'a rien, absolument rien du Christ de l'Écriture, qui a dit à propos des faux Christs des derniers jours, en Matthieu 24, n'est-ce pas, « Plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens, comme c'est le cas aujourd'hui. » Les adeptes du Nouvel Âge n'ont rien de chrétien, non plus, absolument rien, bien que le nom de Christ soit couramment dans leur bouche. S'il fallait en peu de mots définir ce mouvement, je dois dire que j'ai eu pas mal de peine à le faire, je le qualifierais d'humanisme spiritualiste et mystique pour sa foi dans l'homme divinisé. Parce que le mouvement du Nouvel Âge veut absolument persuader les humains qu'ils sont potentiellement des dieux et qu'ils doivent le découvrir simplement. Ce mouvement annonce l'avènement d'un âge d'or, l'ère du Verseau, qui verra fleurir sur toute la terre un temps de grande fraternité universelle parmi les hommes. Cette ère du Verseau, à ses yeux, doit succéder à celle du Poisson, qui correspond à l'ère chrétienne, qui a résulté de l'ère du Bélier, laquelle a découlé de l'ère du Taureau, le temps pour lui se divisant en ère astrologique. C'est vous dire le caractère occulte et ésotérique de ce mouvement aux doctrines grand flou. Ainsi, le plus vieux mensonge de tous les temps, semé par le diable dans l'oreille de nos premiers parents, en Genèse 3:5, vous serez comme des dieux, refait surface, avec le nouvel âge qui vise un but précis, le plan, en majuscule, conçu par la hiérarchie spirituelle dans l'au-delà, et à laquelle fait partie le Christ, qui est au nombre des maîtres de la sagesse. Une religion mondiale unique. C'est ça le plan. Un gouvernement mondial unique. Une citoyenneté mondiale unique. Une économie mondiale unique. Une armée mondiale unique. Mes amis, nous marchons au-devant de ces choses comme jamais précédemment. Les grandes crises du passé ont fait que les hommes ont cherché à s'unir pour faire face. Et les grandes crises du passé ont aussi appelé de grands hommes pour tenter de les résoudre. En Angleterre, il y a eu un certain Churchill, par exemple. En France, un De Gaulle. Et puis en Amérique, un... Ah, son nom m'échappe tout de suite. Oui, c'est cela. Alors, évidemment, les grandes crises du moment appellent un homme d'une envergure exceptionnelle pour les résoudre. Eh bien, nous marchons au-devant, justement, de cette apostasie qui nous viendra avec cet homme que la Bible qualifie de bête. Pourquoi ? Tout à l'heure, je parlais de divorce avec Dieu. La Bible enseigne tout simplement que humanité sans divinité égale bestialité. Et ceci, vous l'expérimentez couramment à Montréal, nous l'expérimentons en Europe. Une génération qui ne veut pas de Dieu verse dans la bestialité de façon incontournable en même temps qu'irrésistible. Voilà donc où nous mène la révolution dite spirituelle. En fait, elle génère la perte du sens de Dieu. en même temps que le divorce d'avec lui. Puis ensuite, deuxième point, la révolution culturelle. Ah, il y aurait à dire, je vous garderai jusqu'à demain matin à propos de cette révolution culturelle, mais rapidement, vu, n'est-ce pas, rapidement, passé en vue, sur un fond de droit de l'homme, sur un fond d'humanisme, se fondant sur le principe d'une liberté tous azimuts. Oui, cette révolution culturelle entraîne l'effondrement des valeurs fondamentales de la vie. Et elle génère pour sa part la perte du sens de la morale, la perte du sens de la valeur de la vie, par exemple par la banalisation de l'avortement. Quand je pense que dans mon pays, il y a 1000 avortements par jour. Quand je pense que depuis que, justement, l'avortement a été rendu légal, voilà quelques courtes années, 8 millions de petits innocents ont été évacués par ce qu'il est convenu d'appeler l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors peut-être, madame, ici, vous avez avorté. Ne vous en voyez pas du tout juger. Le Christ a dit quoi ? Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Le Seigneur voudrait vous sauver ce soir. Il vous aime. Si les paroles que je suis en train de dire peuvent heurter par certains côtés, je dois dire, je le conçois. Tel n'est pas mon objet à moi. Hein. Le but recherché, certainement pas. Je veux simplement que nous prenions ensemble conscience des temps dans lesquels nous vivons. En quel temps sommes-nous ? Nous sommes en train de passer en quelque sorte une radioscopie de nos temps pour en prendre conscience. Alors, si vous aviez avorté, madame, non, ne vous en voyez pas du tout juger. Le Seigneur voudrait ce soir vous rencontrer. Il voudrait vous sauver. Il voudrait vous dire combien il vous aime. Et il voudrait aussi voir avec vous cette affaire, mais, vous savez, de façon tellement remarquable, tellement extraordinaire que vous en seriez absolument bouleversé. Il vous aime. Mais cette, justement, cette révolution culturelle à laquelle nous devons l'IVG, l'avortement, est en train de nous conduire, j'allais dire gentiment, vers ce qu'on pourrait appeler le droit à la mort. Et déjà, dans notre Europe, dans quelques mois, nos frontières vont disparaître. La Hollande, qui est un pays européen, qui fait partie de l'Europe, vient de décider au niveau de sa chambre, de la Chambre des députés, de commencer d'exercer ce qu'il est convenu d'appeler l'euthanasie. Et ceci maintenant devient tout à fait légal, au même titre que l'IVG, l'avortement. Oui, chemin faisant, nous en arrivons aussi gentiment au droit à l'homosexualité, sous prétexte du droit à la différence. Et vous allez voir que très bientôt, nos gouvernements vont accepter le fait homosexuel, lequel nous déborde, à l'heure qu'il est, de droite, de gauche, ce que j'ai pu en entendre ici depuis 3 semaines que je suis au Québec, ça n'est pas croyable. Mais il en est ainsi aussi de l'Europe. Deux savants français, deux éminents savants français, viennent de dire hautement et publiquement qu'il n'existe aucune raison génétique pouvant expliquer le phénomène homosexuel. Ils ont ajouté ce qui suit, ce phénomène résulte d'un climat dans lequel nous baignons. Mais il n'y a aucune raison génétique pouvant l'expliquer, ce phénomène. Et c'est aussi à cette révolution culturelle que nous devons cette toxicomanie, cette folie du poison, n'est-ce pas, en grec ? Puisque le mot toxicomanie nous vient du grec toxicon, n'est-ce pas ? Le poison et mania, le mot mania qui signifie folie, la folie du poison. Voilà ce que nous avons hérité, ce que nous héritons encore de la révolution culturelle. Et tout ceci ouvre la porte grandement à l'homme du péché. La révolution démographique, vous savez, je pourrais vous en dire encore sur la révolution culturelle, mais Nous allons voir maintenant la révolution démographique et puis ensuite nous observerons un temps de pause avec des annonces. Nous nous lèverons pour nous détendre et nous reprendrons les choses là où nous les aurons laissées. La révolution démographique, elle, pour sa part, a entraîné la perte du sens de la mesure et de l'équilibre. Aujourd'hui, nous connaissons une déstabilisation démographique, c'est-à-dire une déstabilisation des populations sur la surface de la Terre comme nous n'en avons jamais connu précédemment. Nos pays occidentaux ne veulent plus d'enfants. Je tenais il y a pas de temps un cours à Montréal, dans une faculté de théologie baptiste. Et j'avais eu pour équipier un psychologue que vous connaissez peut-être du nom de Glenn Smith, qui m'avait fait savoir que le Québec est au monde le pays qui connaît la dénatalité la plus grande. C'est vrai cela. C'est fou. Mais enfin, en France, on ne veut pas d'enfants non plus. Alors nous, aux pays riches occidentaux, nous ne voulons plus d'enfants. Tandis que les pays en voie de développement connaissent l'explosion de population. Voilà qui explique pourquoi nous sommes envahis de ce qu'il est convenu d'appeler des émigrés. Et voilà pourquoi le phénomène Le Pen, en France, dans mon pays, peut s'expliquer, parce que ces pays-là qui meurent de faim, au sein desquels 40 000 enfants meurent tous les jours de faim, presque inconcevable pour un Québécois et aussi pour un Français, ils se précipitent vers nous. Ils veulent absolument venir vivre au milieu de nous. Ça peut aussi se comprendre. Et ceci déstabilise la démographie mondiale. Et nos savants en futurologie, en prospective, nous disent que vers l'an 2000, nos villes, nos grandes villes, eh bien, compteront quelque 3 milliards d'individus, soit la moitié de la population mondiale se situera dans les grandes villes du monde, avec ce que nous savons de problèmes qui, justement, les habitent, ces grandes villes. Qu'en sera-t-il dans quelques courtes années à propos de promiscuité, de solitude, de suicide, de mal du béton, etc. Oui, véritablement, il n'y a pas de solution à ces choses, à vue humaine. Mais l'Antéchrist apportera des solutions mirobolantes. Et voilà pourquoi il passera pendant quelque temps pour le sauveur temporel des hommes. Un peu comme Hitler, lequel est arrivé sur la place politique en Allemagne en pleine crise économique. Vous savez qu'en Allemagne, quand Hitler est arrivé, pour acheter un morceau de viande, il fallait une valise de billets de banque, pour aller acheter un kilo de viande, en raison de l'inflation de l'époque, de la crise économique et du chômage. Nous connaissons, j'allais dire, cette même crise, mais sur un plan beaucoup plus vaste. Alors Hitler est arrivé comme un sauveur, et il a sorti l'Allemagne de sa crise économique de façon absolument spectaculaire. Voilà pourquoi il a été reçu comme le fourreur. Et c'est ainsi que sera reçu l'Antéchrist, comme le sauveur du monde, et que l'on prendra pour le Christ, parce qu'il voudra se faire passer pour le Christ. Il y a peu de temps, pour vous dire que ce sont en général ses idées à lui, les idées d'Hitler, qui refont surface il y a peu de temps. J'étais orateur à la grande convention annuelle des églises libres de toute la Belgique. J'étais dans ma voiture, je conduisais. Je passais donc en Belgique. Quant à la radio de ma voiture, j'ai pu entendre que le président de la Bundestag, c'est-à-dire du Parlement allemand, un certain Philipp Heinegger, en 1988, avait accepté que les Allemands rappellent l'événement de 1938, la Kristallnacht, la nuit de cristal dans laquelle 250 synagogues avaient été brûlées, dans laquelle aussi tellement de juifs s'étaient suicidés parce qu'ils avaient eu peur Oui, d'être tué par ces Allemands de la Kristallnacht. Il avait autorisé les Allemands à rappeler cet événement. En 1988, heureusement qu'il avait été aussitôt démis de ses fonctions. Mais quelles ont été quelques-unes de ses paroles dans cette cérémonie-là? Hitler, il a rendu leur dignité aux Allemands. Quant aux Juifs, il était bon de les remettre à leur place. Ceci, il y a 4 ans, en Allemagne fédérale, puisque les deux Allemagnes n'étaient pas encore réunifiées. C'est vous dire dans quel temps nous sommes. Cette résurgence de l'antisémitisme, en raison de cette déstabilisation démographique, devient de plus en plus aiguë partout. Je vous l'ai dit, à Paris, le Front National, Jean-Marie Le Pen, qui a les idées d'Hitler, tout à fait, son parti à Paris a littéralement rattrapé le Parti Socialiste, celui de François Mitterrand. Nous en sommes là en France, le phénomène est dangereux. En Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Est, qui a été délivrée du joug communiste, est en train de verser dans le fascisme. Vous l'avez aussi entendu. Alors, les immigrés sont poursuivis, sont battus, sont tués, ainsi que ceux qui ont la peau noire, à nous en faire frémir. Voilà donc dans quel temps nous sommes. Elie Wiesel, un des prix Nobel de notre temps, invité en France par le président Mitterrand, a pu dire ce qui suit. Nous sommes tous dans un train qui va au précipice. Je l'ai entendu moi-même, de mes propres oreilles, il n'y a pas de temps. Nous sommes tous dans un train qui va au précipice. Il faut absolument arrêter ce train. Mais on m'a dit que je pouvais quand même aller jusqu'à 1h30, étant donné qu'il ne s'agit pas de rencontre d'évangélisation, je vous l'ai dit, mais d'une convention prophétique. Ce fut le cas il y a peu de temps aussi à Granby. Alors, rapidement, passer en revue maintenant la troisième révolution, la révolution scientifique, qui opère une accélération, j'allais dire, des connaissances, et qui fait aussi frémir, étant donné les problèmes de bioéthique qu'elle pose et les problèmes de vide juridique qu'elle pose également. Je n'en dirai pas plus. Mais il y a peu de temps, je soupais avec un neveu qui est ici médecin à Montréal, un fils à l'une de mes sœurs, et qui est à la recherche, et qui travaille dans le génie biomédical. Alors que nous étions au restaurant, je lui ai dit, mon cher, parle-moi un peu de ce mariage dont il est de plus en plus question entre l'électronique, l'informatique et la biologie. Il m'a dit, ceci me fait frémir. Ceci fait peur et pose des problèmes de bioéthique. Notre gouvernement en France, justement, s'est réuni de façon catastrophique tout à fait dernièrement, juste avant que je ne m'envole pour le Québec, pour justement s'entretenir de ces grandes questions que pose l'accélération des connaissances, le génie génétique, la révolution biologique, et qui fait tellement trembler, mais je n'ai pas le temps de poursuivre dans cette direction-là. Et puis la révolution industrielle. Laquelle révolution industrielle, elle produit la perte du sens de l'écologie et de l'environnement par les fléaux que vous savez, la couche d'ozone qui se voit trouée de façon dangereuse, et puis aussi par ce phénomène du réchauffement de la Terre et qui entraîne un déséquilibre, des grands équilibres climatiques en même temps que planétaires. Je ne peux pas en dire davantage, ça prendrait trop de temps. La révolution politique et économique, et qui, elle, génère la perte du sens du pouvoir politique tel que la Bible l'enseigne dans les Saintes Écritures, et qui met en marche cette Europe qui est en train de se réaliser de façon rapide, mais qui pose par d'autres côtés des problèmes absolument insolubles. Quand vous pensez, certains disent, mais l'Europe va ressembler aux États-Unis, certainement pas. l'Europe sera beaucoup plus puissante que les États-Unis. Et l'Europe est faite de pays qui n'ont pas la même langue. À l'heure qu'il est, nous sommes 12. Mais au niveau des 12 pays qui forment l'Europe, il s'agit de 12 langues différentes, une vraie Babel. Une vraie tour de Babel. Oh, un grand homme politique belge, dont je tairai le nom, a pu dire, voilà peu de temps, textuellement ce qui suit. Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui pour résoudre nos crises, nos problèmes planétaires, ça n'est pas de créer d'autres comités, mais nous avons besoin d'un homme, d'une dimension politique exceptionnelle pour nous sortir du naufrage économique. Donnez-nous un homme, je le cite toujours, qu'il soit Dieu ou diable, nous l'acceptons. En Europe, tout à fait. Oh, je n'ai pas le temps de revenir à l'Europe telle qu'elle a existé du temps des Romains. Nous savons qu'elle s'est divisée en deux, je dirais ça très rapidement, l'Empire romain d'Orient, celui d'Occident, lesquels ont disparu l'un après l'autre, l'Empire d'Occident pour commencer dans les années 400, et puis l'Empire d'Orient, lequel a aussi disparu dans les années 1400, surtout avec l'invasion des Turcs. Mais il y a eu depuis des velléités, en fait, de résurrection de cet empire avec des hommes comme Charlemagne en France, Charles Quint, Germain, etc., Napoléon, Hitler. En fait, on n'a pas cessé de vouloir reconstruire l'Europe du temps de Charlemagne, Charles Quint aussi. On parlait du Saint-Empire romain germanique, n'est-ce pas ? Or, aujourd'hui, de façon tout à fait, j'allais dire, exhaustive, l'Europe se retrouve et envisage réellement de se former pour devenir la puissance politique, économique et aussi religieuse la plus forte du monde tout entier. Mais la Bible nous dit quoi à cet égard ? Que tout cela, en Matthieu 24, ne représente en fait que le commencement des douleurs. Ce que nous vivons à l'heure qu'il est n'est que le commencement des douleurs. Toutes ces révolutions, toutes ces crises, tous ces problèmes sont en fait les douleurs de l'enfantement d'un nouvel ordre mondial dont on nous cesse de nous entretenir, que ce soit à l'Orient, à l'Occident, etc. Et je terminerai avec ces mots. L'Antéchrist, il sera celui qui acceptera ce que le Christ a refusé. Lorsque le diable, au désert, le tenta avec ces mots, « Si tu te prosternes et m'adores, le monde est à toi. » Ce que le Christ a refusé, l'Antéchrist l'acceptera. Il sera l'incarnation du prince de ce monde. De même que Dieu s'est incarné en Christ, le diable, lui, dont en fait les plans ont toujours été de singer Dieu, s'incarnera dans ce surhomme. Il agira par séduction. Il sera celui qui viendra en son propre nom. La marque de son pouvoir portera sur la main droite de l'homme et sur son front. La main droite pouvant nous entretenir du travail manuel et le front du travail intellectuel. Cette marque sera obligatoire en même temps qu'universelle. Personne ne pourra y échapper. Mais je suis de ceux qui pensent, maintenant je respecte les autres thèses, et je compte parmi mes amis des personnes qui sont amillénaristes. Je connais très bien Henri Blocher, par exemple, qui est un de mes grands amis en France, hein, qui enseigne l'amillénarisme. Je n'ai rien, absolument rien. Nous avons une communion formidable. Je respecte les différentes thèses, mais je pense personnellement que quand cet antéchrist paraîtra, sérieusement, je dis bien sérieusement, au point de faire trembler la terre, eh bien, nous serons déjà partis. Nous serons en pleine lune de miel, dans ce que la Bible appelle le mariage, les noces de l'agneau, avec le Seigneur qui nous aura déjà enlevés à lui, dans sa gloire. Et c'est l'Église qui, alors qu'il est, représente un frein à davantage de corruption et à ces temps d'angoisse et de détresse comme la terre n'en a jamais connu, a dit Jésus. Et pourtant, nos temps sont déjà des temps de détresse et d'angoisse, hein, considérables. La domination de l'Antéchrist aboutira à une fausse paix universelle. 1 Thessaloniciens 5:3. Quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Il faut dire que l'Antéchrist arrivera avec des solutions tellement exceptionnelles et miraculeuses qu'évidemment le monde entier se mettra à ses pieds. Hein. Ça, nous en avons des précédents dans l'histoire de l'humanité. Il restaurera apparemment l'unité perdue à Babel à partir d'Apocalypse 13, 7, etc. Il sortira de l'Occident, probablement d'une union de 10 dictateurs, nous disent les Saintes Écritures à partir de Daniel 7, d'Apocalypse 13, d'Apocalypse 17. Il faut dire que le monde n'a encore jamais connu ce genre de choses, hein. Nous marchons au-devant de ces situations que le monde n'a pas encore connues, il faut le dire. Certains disent que ces choses se sont déjà passées, mais jamais l'histoire des hommes ne vérifie pas ce que nous rapporte ici Daniel ou le livre de l'Apocalypse. Alors peut-être quelqu'un nous dira-t-il, de quelle nation sortira-t-il ? Personnellement, j'emploierai le conditionnel. Il pourrait sortir de Grèce, de la Grèce, laquelle fait partie de l'Europe. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Je ne dis pas qu'il sortira. Je dis qu'il pourrait sortir de Grèce. Pourquoi ? Parce qu'en Daniel 8, il est question, pour commencer, d'Alexandre le Grand, lequel a littéralement mis par terre le royaume des Perses et des Mèdes, n'est-ce pas ? Mais que lui fut brisé de façon assez rapide et qu'à sa place, 4 cornes ont poussé. Je rappelle rapidement la chose, ne cherchez pas. 4 cornes ont poussé et nous savons qu'après Alexandre le Grand et à partir de 4 généraux qui étaient, disons, avec lui, l'empire de la Grèce s'était divisé en 4 puissances. Et Daniel nous fait savoir que une petite corne là, au milieu de ces 4 cornes, tout à coup, prit de l'ampleur et avait pu devenir plus puissante que les autres cornes. Et permettez que je vous lise les termes dans lesquels cette prophétie nous a été rapportée par Daniel. C'est assez impressionnant. Nous ne lirons que quelques versets. Verset 3, « Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve. » Et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, 2 cornes, le bélier, la corne de la Perse et la corne des Mèdes, n'est-ce pas ? Mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. « Je vis le bélier. » qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc. Venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve.
Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes. Sans que le bélier eût la force de lui résister, il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour le délivrer, le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa.
Nous savons qu'Alexandre le Grand mourut jeune à Babylone, hein, très jeune même, à l'âge de 23 ans.
À Babylone. Le bouc devint donc puissant et sa corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, Israël. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Alors ceci ne peut pas être confondu avec Antiochus Épiphane. Jamais Antiochus Épiphane n'avait atteint cette dimension, surtout au plan vertical, hein. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Mais vous savez qu'il y a toujours ambiguïté dans les prophéties. C'est-à-dire que certainement, que dans une certaine mesure, cette petite corne s'adressait à Antiochus Épiphane, lequel avait paru plusieurs années après Daniel. Mais cette prophétie est-il écrit un peu plus tard, par exemple au verset 20e, qu'elle avait très directement au temps de la fin. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises, mais ça c'est tout à fait l'antéchrist. Voilà, et puis nous pouvons encore lire un tout petit peu plus loin, verset 17. Un ange donc alors vint près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé, je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc si il était question d'Antiochus Épiphane, il était aussi question des temps de la fin, c'est-à-dire de nos temps. Et ceci est repris au verset 19, car B, n'est-ce pas, à la fin du verset 19, car il y a un temps marqué pour la fin. Mais maintenant, regardons un peu plus loin. La manière dont cette petite corne était devenue tellement, tellement puissante et impressionnante sur toute la terre. Verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Ceci, artificieux, signifie donc, pas tellement intéressant au départ, hein. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, mais par la force du malin, bien entendu, hein. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans toutes ses entreprises, il détruira les puissances et les peuples et le peuple des saints à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs. Ah, ça rejoint 2 Thessaloniciens 2, hein, qui l'antéchrist se lèvera, se dressera, lancera un défi au Christ lui-même. Il se dressera contre le chef des chefs, c'est le Christ, n'est-ce pas? Et puis ensuite, mais il sera brisé sans l'effet d'aucune main. Et la Bible dit que c'est le Christ lui-même, au jour de son retour en gloire, demain soir, ne manquez pas la dernière réunion, ce sera la meilleure réunion, hein. J'ai coutume de le dire, parce que la Bible dit que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Voilà donc pourquoi je puis, disons, vous dire avec énormément de réserve, hein, et d'hésitation qu'il pourrait sortir de la Grèce. Et surtout en raison de sa situation géopolitique. La Grèce est un pays tout à fait bien situé en Europe pour pouvoir garder des contacts tout à fait heureux avec le reste du monde vers le Midi, c'est-à-dire le peuple arabe, et puis aussi vers l'Est, l'Orient et l'Extrême-Orient. La Grèce étant le pays le plus à l'Est de l'Europe. Voilà, j'avais à cœur de vous dire ces certaines choses. C'est quelques paroles de l'Écriture. Je poursuis maintenant. Il sera institué par Satan, Apocalypse 13, de lui-même, et revêtu de la puissance miraculeuse du diable. Il sera soutenu par la chrétienté apostate, de Babylone, la grande prostituée d'Apocalypse 17 et 18. Il conclura un pacte de 7 ans avec plusieurs. Oui, pour s'assurer de la domination mondiale, et en particulier avec Israël, très certainement, à partir de Daniel 7, 25, de Daniel 9, 27, ce qui est la 70e semaine, son ascension se fera en partie sur une table de négociation. Il sera soutenu jusqu'au bout par le faux prophète, la deuxième bête, qui n'est pas du tout l'Antéchrist, mais la deuxième bête qui monte de la terre et qui l'appuiera à fond, et qui sera à la tête de cette fausse religion qui tentera de réunir toutes les religions du monde en une seule. Et cette religion unique, la Bible l'appelle la prostituée. Il rompra ensuite les pactes contractés avec plusieurs nations, et en particulier avec Israël, à partir de Daniel 12, d'Apocalypse 11, d'Apocalypse 13. Il se démasquera enfin et fera régner la terreur pendant 3 ans et demi jusqu'à Jérusalem. Il rassemblera les armées du monde à Armageddon, Megiddo, champ de bataille historique, à environ 65 kilomètres au nord de Jérusalem. La terrible bataille étant décrite dans plusieurs textes de la Bible, en particulier en Ésaïe 34, en Jérémie 25, en Apocalypse 16, en Apocalypse 17, etc. Il vaincra Jérusalem, et puis, pour un instant, il passera pour vainqueur, mais bien vite, il sera détruit par le retour en gloire du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, oui, de celui que la Bible appelle le prince de la paix. Mes amis, est-ce que vous connaîtrez ces temps-là, ou bien partirez-vous avant ces temps-là? Il n'y a pas d'autre alternative. Il nous faut faire notre choix, en fait. Hein. Le Seigneur affirme qu'il viendra prendre à lui les siens, c'est écrit. Hein. Nous l'avons vu hier soir à propos d'enlèvement. Et ce soir, demain soir, nous parlerons de son retour en gloire. Mais mes amis, la Bible dit que pour tous ceux et celles qui ne se seront pas repentis de leurs péchés, qui n'auront pas fait la paix avec Dieu par Christ, oui, elle affirme que tous ceux-là resteront sur cette terre et qu'ils seront dominés par cette bête, qu'ils seront obligés d'adorer comme étant leur sauveur et leur Dieu. Vous pourriez ce soir en décider autrement pour vous, en même temps que pour votre destinée éternelle. Vous pouvez le faire ce soir en vous repentant de vos péchés, en disant: Seigneur, pardon, je suis un pécheur, c'est toi qui dis vrai. En venant à lui dans la repentance, parce que pécheur, mais dans la foi, dans la confiance, parce qu'aimé de lui. Croyez que le Seigneur ne veut pas tout ce que nous avons dit pour la terre. Il ne le veut pas. Mais les hommes l'obligeront à cela. Ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu sois sauvé. Il t'aime, alors viens à lui maintenant. Et j'aimerais t'en donner simplement une occasion toute simple. Nous allons verser dans un moment de silence, de recueillement. Je dirai une prière, comme pour te la passer. Parce que peut-être n'as-tu pas les mots qu'il faut lui dire. Alors tu vas les dire, ces mots, cette prière. Et puis une fois la prière dite, cette prière qui t'ouvrira dans ton cœur sur le Christ pour ton salut. Une fois cette prière dite, je demanderai à tous ceux et celles qui l'auront dite, qui ne sont pas encore sûrs de leur salut, je leur demanderai de me faire savoir qu'ils auront prié. Permettez que je termine avec cette note d'évangélisation. Ils me feront un signe pour que je puisse prier pour eux après la prière. Là où ils sont assis, leurs mains monteront à cela. Une seconde, pas une minute, le temps de la distinguer, de l'apercevoir dans l'auditoire. Alors, sitôt votre main vue dans mon cœur, silencieusement, je prierai pour vous. Et je dirais: Seigneur, sauve ce jeune homme, cette jeune fille, cet homme, cette femme, comme plusieurs l'ont fait ces soirs passés. J'ai toujours terminé par une note d'évangélisation, offrant donc à ceux qui n'étaient pas sauvés les soirs passés de l'être par la grâce de Dieu. Voulez-vous être sauvés ? Oui, nous prions. Nous baissons la tête tout simplement, ça n'est pas obligé. Et puis, dans le secret de notre cœur, cette prière, dites-la, répétez-la. Ô Seigneur, je n'ai aucune certitude. Seigneur, je n'ai aucune assurance. Des choses m'ont bien étonné ce soir. Des choses entendues pour la première fois. Mais elles sont dans ta parole. Seigneur, en tout cas, je n'ai pas tout compris. Mais ce que j'ai compris, c'est que je ne suis pas encore sauvé. Ce que j'ai compris, c'est que je suis un pécheur qui risque de se perdre éternellement sans toi, dites-lui. Oh, je veux être sauvé, t'appartenir à partir de ce soir. Oh, vivre avec toi et en toi, en attendant ton retour. Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Et je mets ma confiance en toi pour mon salut. Oh, Seigneur, viens vers moi.